Radio Kapi.
Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 12h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Réaction au lendemain de l'attaque survenue d'un convoi de véhicules escortés par les FARDC et les casques bleus en Ituri. L'armée parle d'un bilan provisoire de 4 morts parmi les civils, un militaire porté disparu et 16 véhicules brûlés par les ADF. Le porte-parole de la MONUSCO rassure que la mission onusienne va continuer à soutenir les FARDC. En sport, c'est cet après-midi à Lubumbashi que les Léopards de la RDC joueront contre les Taifa Stars de la Tanzanie. C'est pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Notre invité, c'est la chef de bureau de l'UNFPA pour les Grands Kassai en mission à Mbujimayi. Dr Marguerite Nkunduma est venue lancer le projet pour l'équité, le renforcement du système éducatif et la lutte contre les mariages précoces. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonjour au micro, Pascal Massirika, mise en onde de Willem Lungamba. En Ituri, réaction des FARDC au lendemain de l'attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'ADF à Ofia. L'armée parle d'un bilan provisoire de 4 morts parmi les civils, un militaire porté disparu et 16 véhicules brûlés par les ADF. Pour le lieutenant Jules Ngongo, cette embuscade serait due au non-respect par les camionneurs des dispositifs sécuritaires mise en place. Il appelle la population à faciliter la tâche au FARDC en vue de mieux assurer la protection des passagers et des engins roulants qui fréquentent cet axe jugé très dangereux sur le plan sécuritaire. Le lieutenant Jules Ngongo a été joint par Ezekiel Mouzalia.
Et nous disons ceci, le convoi n'est qu'un moyen palliatif dans l'attente de chercher à restaurer automatiquement et totalement l'autorité de l'État et permettre la libre circulation de personnes et de leurs biens sur tout le réseau routier en Ituri. Et c'est là, c'est au péril de notre vie. Nous les appelons à respecter les mesures sécuritaires et les consignes des convois. Attendez le go du convoi. L'heure qui était prévue, attendez, ne soyez pas pressés. Car nous sommes là pour cette population. Au péril de notre vie, nous allons protéger cette population. Alors cette dernière doit à tout prix respecter les consignes du convoi et les consignes sécuritaires en ce moment où les opérations sont en cours. Et nous demandons à la population au calme, à l'apaisement et surtout de continuer à croire aux actions, sur également faire confiance à cette armée et collaborer avec cette armée.
La MONUSCO condamne fermement l'attaque survenue hier en Ituri. Pour son porte-parole, cette embuscade a un seul objectif, discréditer les FARDC et la MONUSCO pour que la population locale cesse d'avoir confiance envers ses deux partenaires. Mathias Gilman rassure cependant que malgré cet incident, la MONUSCO va continuer à soutenir les FARDC tout en renforçant les dispositifs sécuritaires pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Il a été joint par Jean-Claude Lokidile.
Il y avait une centaine de véhicules qui étaient donc escortés, des voitures, des camions et des motos. Et il y a eu une attaque hier matin à Ofai. Les assaillants ont été repoussés par les casques bleus et l'armée congolaise. Il nous semble que cette attaque vise à discréditer les forces de sécurité, à rompre la confiance avec la population qui a besoin de ces convois qui sont absolument essentiels à la survie économique des Congolais. Et donc malgré cette attaque, la MONUSCO va continuer avec ses partenaires de l'armée congolaise à sécuriser au maximum les déplacements sur cette route nationale afin de permettre aux Congolais de travailler, d'avoir des échanges économiques et d'avoir accès aux ressources dont ils ont besoin. Donc c'est évidemment une attaque qu'on condamne avec force, mais nous allons continuer à sécuriser les convois civils le plus possible et évidemment voir comment on peut encore mieux sécuriser pour éviter que ce type d'attaque ne se reproduise.
J'ajoute que plusieurs civils portés disparus hier mercredi après-midi lors de cette attaque de rebelles ougandais de l'ADF à Ofai ont été retrouvés. Ces personnes ont réussi à s'échapper après des échanges des tirs entre ces rebelles ougandais de l'ADF et les FARDC appuyés par les casques bleus de la MONUSCO. Le porte-parole des FARDC en Ituri parle de 60 civils qui ont été libérés. Le porte-parole de l'armée en Ituri indique que les opérations des traques se poursuivent dans la zone pour ainsi permettre le passage en sécurité des personnes et des biens à cet axe. À Bounia, Ezekiel Mouzalia.
C'est un calme total qui refait surface ce matin dans la localité de Bandibessé en chefferie de Walese Vonkutu, 24 heures après l'attaque des rebelles des ADF contre un convoi des véhicules de transport en commun sur la RN4 dans le territoire d'Irumu. D'après le président de la société civile de cette chefferie, une grande partie de la population de ce village a fui vers les endroits jugés sécurisés. Des carcasses des véhicules incendiés jonchent encore la chaussée. Lors des opérations militaires lancées mercredi par l'armée, son porte-parole avance un bilan de 4 morts parmi les passagers qui étaient en fuite. Leurs corps ont été retrouvés dans la brousse et un militaire est jusqu'ici porté disparu, affirme le lieutenant Jules Ngongo. Parmi les victimes, il y a l'une qui a été calcinée dans les véhicules, précise-t-il. Toutefois, le porte-parole des FARDC confirme la libération des 60 otages des mains de ces hors-la-loi. Du coup, le trafic est paralysé sur l'axe Commanda Luna qui relie l'Ituri à la province voisine du Nord Kivu. Pour l'instant, une vingtaine de véhicules restent bloqués à Commanda, indique la société civile locale. Bounia, Ezekiel Mouzali. Alia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu voisin, les jeunes de Beni doivent se désolidariser des tireurs des ficelles pour que la sécurité soit une réalité dans la zone et que tout projet porte du fruit pour le développement durable. Appel lancé par le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu lors du lancement hier mercredi à Beni du projet dénommé Dialogue démocratique pour la paix à Beni. Le général de brigade Sylvain Ekenge est au micro de Guylaine Kassassia.
À la jeunesse ici représentée, Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Nord Kivu n'a qu'un seul message, celui de vous demander de renforcer la culture de la paix. Certes, vous êtes les premières victimes du terrorisme pour lesquelles vous payez le lourd tribut. Très souvent, vous êtes instrumentalisés par les tireurs des ficelles qui vous poussent à adhérer aux groupes armés et aux forces négatives, à poser des actes répréhensibles pour des raisons et les causes qui ne servent ni la population, ni votre communauté, et moins encore votre territoire. Le moment est donc venu de vous constituer en une force et de demeurer, non pas les plus grands communs diviseurs, mais plutôt le plus petit commun multiple de la paix, de la sécurité et de la prévention des conflits sans lesquels le développement du territoire de Beni est inconcevable et inimaginable.
Et puis à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, c'est depuis 3 mois que des milliers des sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo attendent toujours leur installation provisoire par le gouvernement central. 1006 abris provisoires construits par le gouvernement pour les accueillir sont presque terminés. Officiellement, c'est 2 à 3 000 ménages qui ont été sinistrés, mais sur place, c'est plus de 5 000 ménages qui sont dans des écoles et les établissements publics en espérant être relogés. La grande préoccupation maintenant reste la délocalisation définitive de ces habitants vers d'autres coins, comme promis par le gouvernement central. Radio Okapi Goma, Sifa Magro.
Situé à Kanyaruchinya sur un terrain accordé provisoirement par la paroisse catholique et une partie de la chefferie de Munigi, ces abris sont construits en bâches soutenues par des chevrons et couverts d'étoles. Nous avons visité ce site qui est déjà approvisionné en eau potable et certaines dispositions pour accueillir les bénéficiaires. Le superviseur des travaux, le général Kuzanga Nakubela Jules, explique.
En fait, nous avons construit au total 1006 abris. Sur place ici, il y a 900 quelques abris, parce que nous avons aussi construit à Kananza 32 abris. Le site est subdivisé en 5 quartiers. Chaque quartier est doté de l'eau, de toilettes, ainsi que des lampadaires pour éclairer. Chaque abri contient 2 chambres et salons.
Néanmoins, les conditions de sécurité de ces abris inquiètent encore certains acteurs, notamment un député élu de Nyiragongo. Adèle Bazizane pense qu'en dehors des intempéries, ces abris devraient être améliorés.
Comme le nom le dit, abri provisoire, moi j'accepte espérer que ça soit des maisonnettes en semi-durable où les gens pouvaient vivre paisiblement. Mais les bâches comme ça, même quelqu'un peut passer avec des rasoirs, casser ces bâches.
Pour le général Kuzangana, cet espace a été accordé pour un temps, raison pour laquelle il ne pouvait pas y construire des maisons en semi-durable. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où 207 moteurs hors bord des pêcheurs congolais ont été restitués hier mercredi après-midi par les autorités ougandaises après 4 ans et demi de confiscation. C'était à Kayanza, une localité située au bord du lac Édouard du côté ougandais. La délégation congolaise a été conduite par l'administrateur du territoire de Beni, le colonel Ehuka Omeonga. Le président du comité des pêcheurs individuels de Kiavinyonge salue ce geste, fruit de la diplomatie congolaise selon lui. Il plaide cependant pour la restitution des autres matériels confisqués et la libération des pêcheurs congolais qui sont arrêtés par la marine ougandaise. Noé Mboussa Kavassia a été joint par Sadiki Aboubakar.
Tunashukuru raisi wetu ambaye tunamtegemea Felix Tshisekedi Antoine.
Nous remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la diplomatie qu'il a faite avec son homologue ougandais afin de libérer nos matériels qui ont été saisis par la marine ougandaise depuis 4 ans et demi. Ici, nous réceptionnons 207 moteurs hors bord et il y reste 63 moteurs non restitués. Nous demandons au chef de l'État de continuer la diplomatie avec son homologue Yoweri Kaguta Museveni en vue de libérer également 105 pêcheurs congolais qui sont encore détenus en Ouganda et environ 260 de nos pirogues qui n'ont pas été également restituées.
60 pirogues ambazo zimebaki huko Uganda nazo vile tupate kuzipata.
On en vient maintenant à l'exploitation minière illégale au Sud Kivu. 8 députés provinciaux sont arrivés mardi dernier à Kamituga, dans les territoires de Mwenga, pour une mission de 4 jours. Objectif visé, enquêter sur les accusations de la société civile locale envers les opérateurs miniers expatriés. Ces exploitants miniers ne respecteraient pas les cahiers de charges signés avec les habitants de la zone. Pour en parler, retrouvons à Bukavu Cynthia Bachizina Bizana.
Cette délégation a passé un jour dans la ville de Kamituga. Elle s'est ensuite rendue dans la chefferie de Wamuzimu au sud de Kamituga. Les députés provinciaux comptent visiter tous les sites miniers tenus par les sociétés chinoises dans le territoire de Mwenga. Les élus veulent trouver des solutions aux différends entre les sociétés chinoises et la population locale. Des problèmes qui se résument au non-respect du cahier des charges. Ce document est un ensemble d'engagements pris entre l'entreprise minière et les communautés locales pour la réalisation des projets de développement. Notez que cette mission intervient quelques jours après la suspension par le gouverneur de province du Sud Kivu des 6 sociétés minières chinoises et leurs coopératives minières locales. Les activités de ces sociétés ont été suspendues car ces opérateurs ne détiendraient pas des titres miniers en bonne et due forme. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
En sport, c'est ce jeudi à 15h heure de Lubumbashi que les Léopards de la RDC jouent contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Ce match de cet après-midi compte pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. À Lubumbashi, c'est une correspondance de Jean Gandou.
Ce match de la première journée captive l'attention de plusieurs personnes à Lubumbashi. Cependant, le public n'est pas autorisé à y assister pour apporter son soutien aux ambassadeurs congolais. Coronavirus oblige. À l'instar du gouverneur du Haut-Katanga, les appels fusent de partout pour inviter toute la population à être derrière les léopards afin qu'ils prennent le meilleur sur leurs adversaires du jour qui ne sont pas venus à Lubumbashi en victime résignée. La détermination et la hargne de vaincre sont démises du côté des léopards. Toutefois, cette équipe ne s'est pas très bien préparée. À peine une ou deux séances d'entraînement d'ensemble, ce qui ne serait pas suffisant pour créer une certaine homogénéité au sein du groupe, estime un analyste sportif. D'où le souhait émis par plusieurs louchois de voir les sélectionneurs n'aligner que les meilleurs pour empocher ces 3 premiers points, car l'élimination des léopards à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 est encore en travers de la gorge de nombreux Congolais. Et pour booster le moral des léopards, le ministre des Sports qui est arrivé ce mercredi à Lubumbashi a indiqué qu'il a été dépêché par le chef du gouvernement pour apporter le soutien tant moral que financier aux ambassadeurs congolais. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le premier vol d'Air Sénégal à destination de New York aux États-Unis d'Amérique a décollé hier soir de l'aéroport de Dakar. Cette nouvelle desserte, retardée à cause notamment de la crise sanitaire, est un grand événement pour la jeune compagnie nationale lancée en 2018. Le directeur général Ibrahima Kané parle d'un palier critique important dans le développement du réseau en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Au Yémen, 65 combattants ont été tués lors des violents affrontements survenus il y a deux jours entre les forces gouvernementales et les rebelles dans la province de Marib, au nord du pays. C'est ce qu'indique ce jeudi une source militaire. La semaine dernière, une centaine de combattants ont péri dans les combats à Marib, dernier bastion du pouvoir au nord du pays ravagé par la guerre. Il s'agit des affrontements engagés depuis février dernier par le gouvernement central contre les rebelles dans cette zone riche en pétrole.
L'invité.
Notre invité, c'est la chef de bureau du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA au Grand Kassai, en mission à Mbujimaï. Docteur Marguerite Kunduma est venue lancer le projet pour l'équité et le renforcement du système éducatif et mener en même temps les plaidoyers auprès des autorités dans le cadre de la lutte contre les mariages précoces. Elle s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, docteur Marguerite Kunduma. Vous êtes le chef de bureau de UNFPA dans le Grand Kassai. Quel est le but de votre mission à Mbujimaï?
Je suis à Mbujimaï pour une mission de lancement d'un projet. Nous avons un projet très important ici et dans la Lomami, financé par la Banque mondiale. C'est le projet PERS. Le projet de l'équité et le renforcement du système de l'éducation. C'est un projet qui accompagne les programmes de gratuité de l'enseignement primaire et avec objectif principal la mise en place des mécanismes de prévention de l'exploitation et abus sexuels en milieu scolaire. Comme vous savez, le Kassai oriental a des indicateurs qui nécessitent quand même une attention particulière. Les indicateurs liés à notre programme, c'est-à-dire la santé de la reproduction et violences basées sur le genre. J'ai discuté avec les autorités sur les indicateurs comme le mariage des enfants. Le Kassai oriental est placé à tête au niveau du pays. C'est la première province avec le taux de mariage d'enfants le plus élevé. Disons, c'est qu'à 7% des filles s'y sont mariées avant 18 ans, alors que la moyenne nationale, c'est à 18%. Mais ici, on est à 57. Et d'autres indicateurs aussi, comme les besoins de planification familiale et les autres indicateurs sur les violences faites à la femme, très, très sensibles et très mauvais ici. Du coup, on a été discuté avec les autorités pour présenter ce que nous faisons déjà comme agence des Nations Unies. Nous travaillons en partenariat avec UNICEF dans les questions des mariages des enfants, mais nous voulons aussi l'implication de l'autorité provinciale.
Vous parlez de projet PERS, quand il va être lancé?
En fait, le projet PERS a déjà démarré. C'est un projet qui couvre 10 provinces. Ici aussi, on a fait déjà des formations des formateurs parce qu'on veut vraiment doter chaque province avec ses pôles de formateurs dans tout ce qui concerne ces questions de violence basées sur le genre et aussi des exploitations et abus sexuels. Du coup, on voit maintenant ensemble comment ces formateurs peuvent commencer des formations sur terrain. Et quelle structure cibler. Et c'est un travail conjoint entre trois secteurs. Ça veut dire l'éducation, qui est le principal secteur qui sera appuyé par la santé et les genres familiales.
Quel sera le mécanisme pour qu'on puisse être informé ou bien pour remonter les informations en rapport avec les abus sexuels et les violences basées sur les genres dans le milieu éducatif?
Le projet a des volets. Il y a un volet qui est géré par le ministère de l'Éducation lui-même. Ça veut dire qu'ils ont mis en place une base de données de gestion des plaintes. Chaque fois qu'il y a un problème de violence ou d'abus d'un élève par son enseignant ou par ceux qui appartiennent au corps éducatif, donc ça remonte au niveau de la base des données et ils ont tous les mécanismes de gestion des plaintes. UNFPA, nous venons appuyer ce projet par rapport à notre expertise dans la prévention. Au fait, nous voulons faire la prévention, à sensibiliser les enseignants, tous les corps enseignants, les élèves et aussi les communautés et aussi en mettant en place ce que nous appelons mécanisme de référencement. Ça veut dire chaque fois qu'il y a un cas qui survient, par exemple, le cas survient à telle école X dans un village X. Donc, ils peuvent tout simplement avoir les circuits de référencement à leur portée pour savoir à cas de problème on réfère où et on réfère auprès de quelle structure qui peut prendre la charge. Et une fois que nous aurons identifié ces structures-là, nous allons renforcer la capacité pour qu'elles soient prêtes à recevoir les enfants à cas de problème.
Après l'identification des cas, l'INFPA n'appuie pas l'étape juridique par rapport à ce cas.
Lorsque un élève est abusé par son enseignant, c'est une survivante de violences basées sur les genres. Et comme vous savez, les survivantes des violences basées sur les genres doivent être prises en charge holistiquement. Ça veut dire prise en charge médicale, psychosociale, réinsertion socio-économique et l'accompagnement juridique. UNFPA, nous coordonnons la réponse et la prévention au VBG. UNFPA, comme une agence coordonnatrice, veille à ce que la victime, la survivante, puisse bénéficier de 4 volets. UNFPA comme agence, nous-mêmes, nous appuyons l'offre des 2 volets. Donc la prise en charge médicale et psychosociale. Et aussi, nous travaillons en partenariat avec les autres agences. Et tout ça, c'est dans un cadre de mécanismes de référencement. Ces mécanismes de référencement identifient tous les points d'offre et de services des 4 volets. Ça veut dire qu'une victime qui a ce genre de problème va bénéficier de tout ça. C'est à ça vraiment que c'est le mécanisme de référencement.
Docteur Marguerite, je vous remercie.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, la chef de bureau de l'UNFPA dans les Grands Kassai. Dr. Marguerite Kunduma était interviewée par Esther Ndalafina. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Élisée Tikotamwamboui qui l'a coordonnée sous la supervision éditoriale de Pelikipela Mondo. Vous avez le loisir de retrouver ce journal sur www.radiookapi.net.